vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM présente Cappuccino.
Oui, Alain, bonjour.
Ciao, bonjour Chantal, bonjour Raphaël, bonjour Enrico, Mastro Giovanni, à la technique. Michel n'est pas là aujourd'hui, il est retenu pour des questions particulières, mais c'est pas grave, on va quand même faire notre émission comme prévu.
Oui, juste, est-ce que je peux faire une petite rectification? Pour le séjour en Corse, en fait, c'est du 18 au 25 mai, voilà.
Ok, très bien, c'est noté.
Merci.
Alors, dans cette troisième partie, on va commencer par des infos culturelles et des chansons. Et puis, en deuxième partie, on recevra Huguette Atem. Huguette Atem, s'occupe beaucoup, qui est traductrice essentiellement de l'italien, qui a traduit Eduardo De Filippo, qui a traduit Pirandello, qui a joué au théâtre et qui a traduit également l'adaptation d'un film qui s'appelle Une journée particulière, film d'Ettore Scola. Et cette adaptation au théâtre est jouée actuellement tout le mois de décembre à Paris au théâtre de l'Atelier. Voilà, donc on recevra Huguette Atem en deuxième partie de l'émission. Alors, on doit remercier aussi, je remercie de la part de Michel, tous les participants à la fête de Italiani in Europa. Voilà, il y avait notamment Marie-Rose Pouchin, Antoine, Cantalina, Francesca, Paranella, Emmanuel Iannicelli, etc. Et qu'on espère les retrouver tous bientôt pour une nouvelle aventure et une nouvelle soirée avec Italiani in Europa. Alors, on va commencer par une nouveauté, c'est Mina qui se fait très peu voir, mais qui continue à enregistrer, et on écoute tout de suite ce disque de Mina.
Quanto pianto affogo dentro al mio silenzio, ma del silenzio non sono mai stanca, a parte quando rido parlo canto. Mi piacerebbe diventare suono per non avere forma, sesso né pensiero. Pensare troppo m'ingannato e penso a troppe cose a cui tendevo. Sì, ogni tanto ti penso, chissà se fai lo stesso tu. Sì, ogni tanto mi perdo, ma inutile perché tempo per non dirti no, normale che adesso non ti importi più, mi chiedo però se mi amassi tu, ti ho esasperato coi problemi miei, a volte lo ammetto trascuravo i tuoi, sincero la
Voilà, c'était donc Mina. On va continuer avec Mina, mais avant, je vais vous annoncer un spectacle. Ce spectacle, c'est un groupe de comédiens italiens qui s'appelle le Divina Comedy Show et qui propose un spectacle d'humour et d'allégria en italien. Et ce spectacle sera composé de seuls one man show, mais plusieurs comédiens, dont notamment Roberta Cecchin. Et ce sera le mardi 12 décembre au Broadway Comedy Café qui se trouve 25 boulevard Bonne Nouvelle dans le 10e métro Bonne Nouvelle. L'entrée est gratuite, une boisson est payante, mais là, les comédiens nous offrent deux boissons gratuites. Alors, si vous voulez assister mardi prochain à ce spectacle, dans le 10e au métro Bonne Nouvelle, vous nous appelez et il y aura vous nous donnez votre nom et il y aura deux boissons gratuites. Pour cela, vous nous appelez au 01 40 24 29 29. Et on va continuer avec Mina en musique, avec une chanson que vous connaissez tous, qui est un grand succès international, mais créée par Claude François, qui est comme d'habitude.
The final curtain, my friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through. Guided course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure. My feel, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Oui, on va continuer avec notre cappuccino, on va continuer en musique avec encore une nouveauté. Cette fois-ci, il s'agit de Georgia. On écoute tout de suite. Voilà, vous avez reconnu, c'était Paola et Chiara, et non pas la Georgia qui a disparu. On va continuer, puisqu'on va partir bientôt à parler de Sophia Loren et à Naples, bien que le film se passe à Rome. On va écouter un chanteur napolitain, dont le nom est très napolitain, puisqu'il s'appelle Giovanni Wurzburger. Et on va commencer par la canzone appassionata.
Notte vacerina, aggiriata, crescendo la coppena e costruo. Navanta cata già me l'ha spazzata. E tutte fronne cagnano colore, caduto sogge frutto e tutto quanto, era una luce e si sono fatta male, ma un coro dice, poi giovinotta amante, e cosa amara, tiene la più cara, gli amare come si, ti voglio bene, ti voglio
meglio bene tu mi fai morire. E il rumo canari innamorato, sto cuore che cantai mattina e sera. Scendi di rica e non posso accettare, e mo non canta manca primavera. Chi muovo bene non mi fa felice, forse sta in giro destinata e scritta, ma i pensi che hanno detto antico dice non sono manno pianta mia, pianta sta testo, pianta sta raguana, e schioppa una bella rosa e i bambolia, a chi m'ha fatto piangere un sciamana. La ricolosa mia tu mi perdona, si le scarpe sarà senza coscienza, ci stanno dita dammi la ragione, fai bene scorta e si fai male, oh male, pensaci buona, sì, te voglio bene, te voglio bene, come fai muri, te voglio bene.
Tu voulais bien et tu, tu me fais mourir. C'est l'amour vache. Une autre annonce, c'était Giovanni Furstburger, bien sûr. À l'approche de cette fin d'année 2003, la galerie Orenda propose une escapade en Toscane, dans le grand berceau de l'art mondial entre Pietrasanta et Carrare. Là où Michel-Ange allait chercher son marbre, et où s'illustrèrent aussi d'autres artistes plus récents, comme l'Espagnol Juan Miró ou Botero. Et cette exposition est à découvrir du samedi 9 décembre, c'est-à-dire depuis hier, jusqu'au 10 février, à la Galerie Orenda, qui se trouve rue de Verneuil, au 54 rue de Verneuil, dans le Paris 7e. Le site internet, c'est www.orenda-art.com. Et vous pourrez visiter gratuitement cette exposition sur la Toscane. On va continuer en musique avec le prochain disque programmé, c'est Cantaguaglione.
Malinconia, che cosa proprio strana, una ragazza che ti sfugge per il piacere di farti soffrire, come ti guarda, ti punge, vorrebbe farti soltanto arrossire. Canta guaglione, lieva da capo sti pensieri amaro. Sta passando, niente ti potrà più dare, perché
canti che ti sprizzano la vita. Non è per niente strano, quella ragazza non ti sfugge, ma vuole solo poterti amare. Non è la vita, niente ti punge, da farti soltanto odiare te. Lo canto, lo voglio, lieva da capo sti pensieri amare. Lo canto, lo voglio, capito sta passando, niente ti potrà più dare.
Voilà, c'était Nouveau de Naples. On va retourner vers Rome, où se passe l'action de cette pièce dont on va parler dès que notre invité va arriver. En attendant, je vais vous faire une petite annonce de cinéma. On peut voir depuis mercredi le dernier film de Alice Rohrwacher, cette jeune réalisatrice et réalisatrice italienne. Ce film s'appelle « La chimère ». Après Corpo Celeste, son premier film, et son dernier qui était Felice come Lazzaro, cette fois Alice nous propose toujours un film un petit peu déjanté, vraiment qui sort de la production habituelle des films italiens qu'on peut voir ces années. Ça commence d'ailleurs un peu comme un western, un personnage arrive en train, on ne sait pas d'où il vient, d'où il est, qui il est. On est dans les années 80 et il s'agit de pilleurs de tombes étrusques en Toscane. Voilà, et donc l'acteur principal est un Anglais, Arthur, et donc qui est interprété par Josh O'Connor. Et puis il y a également la sœur, la grande actrice Alba Rohrwacher, et même un personnage encore décalé qui est Isabella Rossellini dans un rôle d'une comtesse un petit peu qui vit avec ses filles dans une maison à moitié en ruine. On va continuer en musique, on va passer un extrait du film, c'est Sofia Loren du film, Sofia Loren et le Marcello Mastroianni qui prennent une leçon de tango.
Vuole sapere a che servono?
No.
Guardi, venga qua, stia attento. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre, anche indietro. Tre, due, uno. 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 Ha visto com'è semplice? Mi dia la mano.
No, ma perché?
Facile, ci sono i numeri, coraggio. Col sinistro. Uno, due, tre. Uno, due, tre.
Ma scusate.
Uno, due, tre. Vedrà. Due, tre.
Ma che stiamo
facendo? La rumba.
Ah, la rumba.
Belle bimbe innamorate.
Ma no, ma mi pare. Mia figlia è quella grande, lei sì che sa ballare. Ma io alla mia età.
Profumo d'amore.
Un Dio sognato.
Mi sono sfilate le calze, messe nuove nuove stamattina.
Ma lei m'ha abbandonato.
Due, tre.
Triste perché.
Su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro, bimbe innamorate, gli aranci confrate, hanno un magico sapore.
E voi ci andate spesso a ballare?
Mai!
E allora perché vi state imparando la rumba?
Così. Questo è meno ballabile.
E adesso scappo. Tengo certa roba sul fuoco. Grazie, tanto piacere di avervi conosciuto.
Mi chiamo Gabriele.
Ah già, non ci siamo neanche presentati. Piacere, Antonietta Di Bene.
È un bel nome.
Oui, oui. Voilà, on était avec Marcello et Sofia dans un extrait de ce film. Notre invité Huguette Atem est arrivé. Bonjour Huguette, merci d'être là aujourd'hui. Donc pour nous parler de cette adaptation qui se joue actuellement, on va revenir en détail un peu plus tard, mais donc de La Journée particulière. Qui se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier dans une mise en scène de Lilo Bauer avec donc Laetitia Casta et Roche Dizem dans les rôles principaux. Mais d'abord, je voudrais présenter à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Huguette Atem, qu'on a reçu il y a je crois que c'était il y a 8 ans, en 2015, donc pour oui. Une première adaptation de cette pièce. Mais Huguette Atem, donc agrégée d'italien, qui a aussi plusieurs casquettes puisqu'elle a été comédienne sous le nom de Huguette Cléry, qui a joué donc aussi bien du théâtre contemporain comme Michel Vinavert, notamment à la Comédie de Saint-Étienne ou les classiques le Goldoni, Molière, L'Envol de Carlotta Clerici plus récemment, et même cette adaptation de La Journée particulière où qu'on a vu au Petit Montparnasse, je crois, donc en 2015. Cette agrégation d'italien a surtout permis de développer une activité de traductrice. Je crois que c'est vous qui avez fait connaître Eduardo De Filippo, notamment.
Oui, j'ai traduit plus d'une vingtaine de pièces d'Eduardo De Filippo, à une époque où il n'était pas du tout, joué du tout. D'abord parce qu'il ne voulait plus être joué en France. Il pensait qu'il était incompris. Et il a vu, j'ai réussi à lui faire changer d'idée. Et avec le succès de l'art de la comédie qu'avait monté Jean Mercure, les choses ont changé. On s'est aperçu en France que c'était un très grand auteur.
Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que l'univers napolitain est assez quand même éloigné de l'univers français, mais c'est sûr que c'est un grand auteur puisque... alors oui, j'ai appris aussi qu'il ne voulait pas qu'il soit traduit, donc c'est pour ça qu'il ne l'était pas.
Non, il avait refusé que l'on joue à partir de 1964 parce qu'il avait reçu une mauvaise critique de Jean-Jacques Gauthier. Ça l'avait blessé parce que lui, il écrivait pour réformer le monde, pour que le monde soit un peu plus rond, un peu moins carré, comme il disait, et il voulait pas être pris pour un amuseur napolitain. Et c'est vrai que ces pièces sont à la fois dramatiques et comiques.
On le redécouvre puisque la grande magie, donc, qui a été traduite, a été donnée à la Comédie française.
Ça a été donné à la Comédie française et c'était pas la première fois d'ailleurs, ça avait été monté précédemment et ça a été monté récemment par le Théâtre de la Ville, par Emmanuel de Masnota, qui va d'ailleurs le reprendre l'année prochaine.
C'est la partie napolitaine, mais également au niveau théâtre, c'est Pirandello qui a été traduit. Alors, Pirandello avait déjà été, lui, traduit par Benjamin Crémieux.
Oui, mais vous savez, les traductions vieillissent, il fallait peut-être les remettre au goût du jour en général, pour que le public d'aujourd'hui ait l'impression que le public de l'époque avait. Et c'est vrai que les traductions de Benjamin Crémieux, qui sont très bien, très exactes, il faut souvent les reprendre.
Oui, parce que le français lui-même évolue, donc il faut bien qu'on s'adapter, en effet, à cette chose-là. Donc on va peut-être venir donc au notre sujet, là, qui est donc à l'origine un film donc de Ettore Scola, avec presque le retour de Sophia Loren après une carrière américaine, et qui jouait pour la première fois sans maquillage, et Marcello Mastroianni, qui alors, eux, c'est le grand couple du cinéma italien.
Oui, et le film date de 1977 et a fait un très grand succès. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote amusante à ce propos sur Sophia Loren. Sophia Loren n'était pas très contente de jouer sans maquillage et de ne pas paraître aussi belle, croyait-elle, parce qu'elle paraît quand même très belle, elle est magnifique. Alors, en cachette, quand la maquilleuse avait fini, ce sont ses filles qui citent ça dans leur livre sur leur père, elles se remettaient un petit peu de maquillage, mais évidemment, Ettore Scola le voyait. Alors un jour, il l'a prise à part, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, et à partir de ce moment-là, elle a accepté de jouer comme la maquilleuse l'a préparée.
Ok, on va écouter un petit extrait de nos acteurs actuels, donc qui sont Laetitia Casta et Roche Dizem, dans cette pièce. On l'écoute tout de suite.
Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'abord le contexte, de raconter une période aussi austère que la dictature mussolinienne, et d'y trouver ces deux personnages. Alors, le personnage de Gabriele que j'interprète, c'est, pour moi, il représente une forme de courage, parce que il est artiste et spirituel dans une politique où on interdit justement toute forme de réflexion autre que nationaliste. Et il a aussi le courage de son orientation sexuelle, qui est, pour l'époque, un vrai défi. Donc ça me touche parce qu'en plus, il représente aussi cette forme de pensée aujourd'hui qui nous est chère et qui était totalement interdite à cette époque et qui l'a encore dans certains pays.
Ce qui m'a touchée chez Antonietta, donc elle est la représentation des femmes de l'époque, des femmes au foyer, qui s'occupent des enfants, des tâches ménagères. Elle est aussi un culte, et elle va rencontrer sur sa route un homme tout à fait raffiné qui va d'un coup l'éveiller à sa propre pensée, l'éveiller à ce qu'elle est, à son âme, donc dans une période aussi difficile. C'est comme une aparté un peu magique, un rêve. C'est comme un train qui vient dérailler, quoi. L'imprévu, l'inconnu, l'autre. Et c'est toute cette sensibilité-là qui m'a touchée, c'est de sortir un peu du côté conformé, conformiste, et ça fait des êtres à part.
C'était cet extrait où les deux acteurs racontent pour ce qui les intéressait dans ce rôle. Alors, ce film, le scénario était de Scola, mais aussi de Ruggero Macari, et puis de Maurizio...
Giulia Lafantoni, qui était l'épouse de Ettore Scola. Voilà. Donc, naturellement, il avait aussi un regard sur l'adaptation. Mais... Et par rapport à l'adaptation, je dois dire qu'il y a eu des scènes ajoutées entre la première version. La première version de la pièce a été faite par Jacques Weber. Au théâtre du 8e à Lyon en 1980-82, et d'ailleurs le texte est publié là à l'avant-scène.
Oui, on en parlera après.
Et il a repris, et c'était Françoise Petit qui avait fait la mise en scène, et quelques années plus tard, il a repris la pièce et il a fait lui-même une mise en scène. Avec Nicole Courcelles n'était plus là, et c'est Françoise Fambillon qui avait joué le rôle à l'époque.
Et on l'a vu aussi interprété par Corinne Touzet, donc il y a quelques années.
Et Corinne Touzet a joué longtemps, d'ailleurs, entre 85 et 87, et au Petit Montparnasse à Paris, dans la mise en scène de Christophe Lidon, dans laquelle je jouais la concierge.
C'est ça, voilà. Avec aussi donc Jérôme Angers, on va les citer, les trois rôles, oui. Et puis Fabrice Michel. Alors, dans ce... ce que raconte ce film et cette pièce, c'est deux solitudes qui se rencontrent parce qu'on est dans cette journée particulière. Elle est particulière pour l'Italie, pour le monde presque entier, puisque c'est le jour où Hitler vient à Rome rencontrer Mussolini. Et il y a deux exclus qui sont donc Antonietta et puis Gabriele.
Gabriele, qui est un journaliste qui a été mise au banc c'était Leiar à l'époque, la radio italienne, pour ses mœurs, parce que il est homosexuel et que ce n'était pas admis du tout à l'époque. Et ils se rencontrent, ils sont solitaires tous les deux. Antonietta est une femme méprisée par son mari, qui s'en sert un peu comme de servante et qui ne va pas au défilé. C'est une grande fête, le défilé pour Hitler. Alors on a sorti un défilé militaire, évidemment. Et alors la chose particulière, c'est que Ettore Scola était lui-même au défilé. Il avait 6 ans et demi.
Oui, comme les enfants, les 6 enfants d'Antonietta. Tout le monde était obligé d'y aller.
Et il m'a dit, alors je lui dis, c'était terrible pour vous. Il m'a dit pas du tout. J'étais très content. J'avais 6 ans et demi. J'avais un fusil. C'était magnifique.
Oui, un gamin. Et donc ces gens qui a priori n'ont rien pour se rencontrer vont quand même se rencontrer. On va faire une petite pause musicale. La musique du film est de Armando Trovajoli et là on va écouter Sofia Loren qui nous chante Che m'imparato a far, une chanson de Armando Trovajoli.
Stella da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Kiss mi viene a ti, io te vorrei passare, io portannete con me, che taggio di taffa, sono innamorata di te, perché passano mai così, tu mi hai imparato a te. Di cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sapendo non torna, che m'è imparata a fare sti frasi forastiere. Amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te. Frase forastiera, amore che dea felicità, che m'è imparata a fa, la 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 la, la 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 la, che m'è imparata a fa.
C'était la belle voix de Sofia. Et alors, donc, cette fois-ci, les rôles sont interprétés par Laetitia Casta, Roche Dizem, mais aussi John Belvieux et Sandra Choquet dans le rôle de la concierge. Et Emmanuel étant le mari qui apparaît au début, qui part à la manifestation et qui revient à la fin. Donc Laetitia Casta, bon, on sait qu'elle a commencé comme mannequin, mais elle a aussi beaucoup tourné au cinéma et avec succès. Elle a même, donc depuis les Astérix jusqu'au Facteur Cheval et un film, le film sur Gainsbourg, elle a même réalisé un court-métrage qui s'appelle « En moi ». Et actuellement, on peut la voir sur les écrans dans le film « Le consentement » de Vanessa Fillon.
Mais elle a aussi beaucoup joué au théâtre.
Oui, oui.
Elle a joué Ondine.
Ondine de Giraudoux, scène de la vie conjugale d'après Brandt. Oui, oui, donc elle est vraiment...
Mise en scène par Jacques Weber, qui avait lui-même interprété une urne des particulières. Et l'année dernière, elle a joué Clara Askill.
Oui, Clara Askill.
C'était magnifique. Elle a eu beaucoup de succès avec ce spectacle-là.
Oui, elle a vraiment fait ses preuves en tant que comédienne. C'est sûr, c'est sûr. Et quant à Roche Dizem, lui, bon, on l'a vu aussi au cinéma dans Francisque et des Orfèvres ou Indigène ou Homer Mathieu et ou Chocolat, et puis au théâtre dans Hall de nuit de Chantal Akerman, Le conte d'hiver de Shakespeare ou bien Trahison de Pinter. Et là donc on le retrouve sur la scène du théâtre de l'Atelier. Les précisions, donc ce théâtre de l'Atelier est en place Charles Dullin, c'est entre les métros
Anvers
et Pigalle, voilà. C'est tous les soirs à 21h et le dimanche à 16h, et c'est tout le mois. Ils ont fait déjà une tournée en province, mais ils continuent
Mais ils sont à Paris que jusqu'au 31 décembre.
31 décembre, oui. Et voilà, il y aura ensuite d'autres tournées, et même en Italie, j'ai vu qu'ils
allaient... Oui, ils vont à Perugia,
Justement, voilà. Perugia, donc, que vous connaissez pour...
Ah, écoutez, Pérouse est une ville absolument magique. Et quand on a été une fois à Pérouse, on ne peut pas ne pas y retourner. C'est une ville qui a un centre... ancien, magnifique, il y a des vestiges étrusques encore, il y a des monuments magnifiques, et surtout, c'est une ville universitaire aussi. Et il y a une grande université pour étrangers. Et tous les professeurs d'italien de France ont le droit d'aller se recycler en août, quelques jours, à l'université pour étrangers. Alors, elle est très connue parmi les italianistes.
Oui.
Moi-même, je suis allée souvent là-bas. J'avais même dirigé une petite association des amis de l'université pour étrangers de Pérouse. Et je crois qu'il faut aller voir cette ville qui est magnifique.
Oui, oui, oui. J'y suis allé. Il y a une très belle fontaine, notamment sur la place.
Une très belle fontaine. Oui.
Et en effet, on est dans les pays étrusques. J'ai fait tout un circuit étrusque. Parce qu'on n'a pas parlé de votre profession de professeur, notamment à Paris 8.
Oui, à Paris 8. J'avais donné des cours à Paris 8. Il y a longtemps, maintenant, et les italianistes sont toujours très intéressés par tout ce qui est artistique.
On va peut-être passer encore un extrait de la pièce où on va entendre Laetitia Casta et Roche Dizem.
Tous, ils y vont tous. Je crois bien qu'ici, la concierge et moi, nous restons seuls. Ah ! Rosemonda ! Ah ! Toutes mes excuses. Rosemonda m'a échappé. C'est un ménage femelle, un petit perroquet.
J'étais sur le point de faire une bêtise et l'arrivée d'une femme qui habite juste en face m'a sauvé. Vous voulez bien m'offrir un café?
Asseyez-vous donc, là. La cuisine, ce n'est pas un endroit pour les hommes.
Ah, moi j'aime être à la cuisine. C'est plus chaleureux, il y a plus d'intimité. Et puis, j'y suis habitué, je suis célibataire.
Moi, je ne plais pas et lui, il ne plaît pas. Voilà.
Quand les gens parlent, c'est signe qu'il y a toujours quelque chose de vrai.
Et moi, je ne crois pas que le locataire du troisième étage soit un antifasciste. De plus, c'est le fascisme qui est anti-locataire du troisième étage.
C'est pas normal. Il vous manque au moins une case. Oh ! Allez vous faire fendre !
Thank you.
Vous devez vous en aller.
Voilà, donc c'était un extrait d'autre chose sur cette pièce.
C'est une pièce qui est souvent reprise et souvent demandée parce qu'elle est devenue classique au fond. Et même par sa forme, parce qu'il y a unité de lieu, unité d'action, unité de temps. Mais c'est pas ça qui en fait un classique. Un classique,
non, c'est
parce que
thème.
Oui, elle parle de thèmes qui sont universels, c'est-à-dire le fascisme, l'oppression de la femme par l'homme, la liberté des mœurs. Et elle en parle. Elle parle de toutes ces choses importantes, dramatiques, d'une façon légère. Et il y a quand même le poids de l'histoire parce que on entend la radio de l'époque, on entend les chars qui passent, le bruit de la guerre, la peur.
La guerre qui se prépare.
Et en même temps, il y a une légèreté, on rit beaucoup dans cette pièce,
oui,
on sourit. Une pièce qui est tendre, comme tendre et en même temps dramatique, parce que naturellement cette journée est très particulière et ces êtres qui sont brisés. Ils vont reprendre leur vie ordinaire, oui. C'est-à-dire que le présentateur radio, parce qu'on ne disait pas speaker à l'époque.
Ah bah non, pas de bruit, oui. Pas de bruit étranger.
Mussolini avait interdit qu'on emploie des mots étrangers.
Oui, même le football, est devenu le calcio.
Il va être déporté, il part,
oui,
il quitte
c'est
tout.
Ça, oui.
Et elle va retrouver sa vie de femme méprisée par son mari et dévouée à ses 6 enfants. La dernière réplique de Marie, si du mari dit une journée comme ça, ça se fête. Viens vite, et si on a un 7e, on l'appellera Adolphe.
Vraiment,
ça fait rire tout le monde.
Ça fait rire.
En même temps,
à la fois, bien que ce soit complètement dramatique. Oui, bien sûr. Oui, son mari qui ne se cache pas non plus de la tromper, en plus, pendant qu'elle s'occupe de ses 6 enfants. Oui, c'est dramatique. Et là, on peut parler aussi de la mise en scène, puisque la pièce se place dans trois lieux, l'appartement d'Antonietta, l'appartement de Gabriele, et puis sur la terrasse. Et là, il y a tout un jeu de scènes tournantes qui font qu'on passe progressivement d'un appartement ou à la terrasse de façon très, très fluide, intéressant au niveau de la mise en scène. Il y a des moyens de mise en scène qui sont assez propres.
Oui, il y a aussi on peut parler aussi des projections que Lillo a demandé et qui sont très belles dans cette version-là. Mais la terrasse, c'est effectivement un moment, c'est le moment culminant de la pièce.
Oui.
C'est le moment où ils vont faussement se retrouver avant de se retrouver vraiment.
Après. Où lui-même va exploser de tout ce qu'il avait contenu et elle aussi. Et puis voilà. Et donc, ces deux qui avaient cette petite femme qui n'a pas lu un bouquin parce qu'elle n'a pas eu le temps, qui collectionne les portraits les grandes paroles de Mussolini, qui sont plutôt ridicules. Gabriel arrive à nous faire rire avec ça, ou qui confectionne un tableau avec des boutons, un portrait de Mussolini avec des boutons. Bon, tout ça, c'est dérisoire, mais et ces deux personnages vont quand même avoir... Il va se passer quelque chose entre eux et qui va changer leur vie. En effet, lui, il va être confiné, il va être écarté. On ne sait pas ce qu'il va devenir, d'ailleurs, par la suite. Et elle, probablement, est-ce qu'elle va un petit peu sortir de son train-train, se rebeller contre son mari, sa condition ? On ne sait pas. Enfin bon, la suite de la société va quand même évoluer, même la société italienne.
Mais il y avait une sorte de fanatisme des femmes qui étaient amoureuses de Mussolini.
Ah oui,
absolument. Dans la pièce, il est écrit moi, si j'aime Mussolini, si la femme dit j'aime Mussolini, moi, le mari, je ne suis pas jaloux. Parce que toutes les femmes devaient tomber amoureuses.
Oui, c'était un symbole sur son cheval, une espèce de centaure, une puissance sexuelle, sans doute.
Parce que dans cette pièce, évidemment, Ettore Scola dénonce le fascisme et les conséquences,
bien sûr,
les connaît après de cette rencontre.
Cappuccino, tutte le domeniche mattina, dalle 8 alle 11.
Je vais rappeler que donc, ce rôle d'Antonietta a été interprété déjà par Nicole Courcelles, Françoise Fabian, Corinne Touzé et maintenant Laetitia Casta.
Oui.
Je vais revenir au métier de traductrice. Donc on a parlé d'Eduardo, de Filippo et, ou bien de Pirandello, mais il y a aussi du Goldoni, Ugo Betti dans les plus récents aussi.
Oui, Ugo Betti est un auteur qui était très à la mode avant 68 et qui est un peu tombé dans l'oubli maintenant, mais qui était un très grand poète et qui a écrit de très belles pièces, qui a beaucoup été monté. Et maintenant, il est un peu oublié.
Et puis, il y a eu un auteur contemporain, Guigo de Chiara, qui a écrit cette pièce qui s'appelle Ultima Notte à Pittsburgh. Ultima Notte à Pittsburgh.
Dernière nuit à Pittsburgh. Pittsburgh,
parce que qui est mort à Pittsburgh le lundi de Pâques 1924, c'est la grande Eleonora Duse.
Oui.
Voilà.
Qui était la rivale de Sarah Bernhardt, à l'époque. Toutes deux étant des immenses actrices, très aimées par leur public. Et c'est là que nous sommes rencontrées, c'est vrai.
Exactement,
j'avais monté
cette pièce avec
Maria Labori, c'était un monologue.
C'est ça.
Il y avait deux personnages, dont une qui ne parlait pas.
Oui.
Et
c'est donc la Douze qui, sentant qu'elle va mourir, revoit toute sa vie.
Oui.
Et donc, ça a été d'abord, moi, on s'est rencontrés à l'Institut culturel italien, et ensuite, cette pièce a été montée au théâtre, dans votre mise en scène, au théâtre des Sept Diamants, dans le quartier de la Butte aux Cailles.
Et
en
Italie, Maurizio Scapparo en avait donné une version.
Il
est un très très grand metteur en scène.
Oui, qui était à Paris aussi il y a quelques années. Donc, on peut dire aussi que pratiquement toutes les traductions du théâtre sont parues dans l'avant-scène.
Non, toutes mes traductions ne sont pas parues, vous savez, parce que l'édition théâtrale se vend mal. Il faut que les pièces soient jouées. C'est ça la quadrature du cercle. Il faut que les pièces soient jouées. Et quand on découvre une pièce contemporaine, il faut chercher à la faire jouer pour qu'elle soit montée. Goldoni, c'est un classique, donc il peut être remonté, il est souvent republié. Mais pour les pièces contemporaines, il faut qu'elles soient jouées pour qu'elles soient publiées en général.
Merci beaucoup, Huguette Atem, d'être venue nous parler aujourd'hui de cette pièce. Moi, je vais juste annoncer, avant les infos de Raphaël à 10h30, la reprise d'une pièce, alors là, inspirée de la Strada, qui s'appelle Gelsomina, et qui va être interprétée à partir de janvier par Nina Caracosta. Ici, c'est à la Folie Théâtre. Donc c'est une adaptation de Pierrette Dupoyer de la Strada de Fellini.